Pour ce dimanche, je vous propose d'entendre dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon Marc, au chapitre 10, quelques passages où des personnes s'interrogent sur cette question : comment avoir la vie éternelle ? Comment entrer dans le royaume de Dieu ? Bon, c'est quand même quelque chose qui est relativement essentiel, je crois, dans les Évangiles. Et les réponses qu'apporte Jésus sont assez troublantes. On amena à Jésus des bébés afin qu'il les bénisse, mais les disciples critiquèrent ceux qui les amenaient. Jésus fut indigné en voyant cela et il leur dit : laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un bébé n'y entrera pas. Puis il les prit dans ses bras, il les bénit et leur imposa les mains. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui l'interrogeait : bon maître, que ferai-je pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit : pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon sinon un seul, Dieu. Tu connais les commandements : ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. L'homme lui répondit : maître, j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit : une seule chose te manque, va. Ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis alors viens et suis-moi. Assombri par cette parole, l'homme s'éloigna avec tristesse car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : avec combien de difficultés ceux qui ont des richesses entreront dans le royaume de Dieu ? Alors les disciples furent étonnés de ce que Jésus leur disait ainsi. Alors Jésus, prenant la parole de nouveau, leur dit : enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres : mais qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda et dit : cela est impossible aux humains, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, c'est tout à fait possible. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter un autre psaume, le psaume 89, donc toujours dans le psautier français. « Je louerai ton amour et ta fidélité. » Donc les strophes 1 et 3 du psaume 89. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que par lassitude je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche avec vigueur ta face. Ô toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver plus encore. Devant toi est ma force et ma faiblesse, garde ma force et guéris ma faiblesse. Là où tu m'as ouvert, accueille-moi quand je veux entrer. Là où je suis enfermé, ouvre-moi pour que je puisse sortir. Que ce soit de toi que je me souvienne, que ce soit toi que je comprenne, toi que j'aime. Augmente en moi ces trois dons de l'intelligence, de la foi et de l'amour, afin que je puisse être ainsi par toi réformé tout entier. Un homme se présente donc devant Jésus avec bonne volonté et lui demande des conseils pour vivre, et non seulement pour survivre. Excellente démarche. La réponse, ou plutôt les réponses successives de Jésus, sont absolument invraisemblables. Et d'ailleurs, elles ont fait scandale parmi les théologiens chrétiens depuis 2000 ans, ou à peu près. Il faut voir l'embarras des théologiens, surtout à partir du IVe siècle, devant le refus de Jésus de se laisser qualifier du terme de bon. Bon en quoi que ce soit. Jésus dit non, il n'y a que Dieu qui est bon. Faisant alors une différence radicale de nature entre Dieu et lui-même, Jésus-Christ. Et quand le jeune homme lui demande « Que ferais-je pour hériter la vie éternelle ?» La réponse de Jésus est tout à fait choquante en théologie chrétienne. La bonne réponse, nous la connaissons. C'est celle du salut par la grâce seule de Dieu, par le moyen de la foi. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il répond ? Il répond avec 5 des 10 commandements de la loi de Moïse, et même pas ceux auxquels on s'attendait. Jésus fait l'impasse sur le premier commandement, le premier des 10 paroles dans la loi de Moïse, qui n'est même pas un commandement, mais qui est une parole essentielle qui pose comme fondation de tout la grâce libérante de Dieu. Jésus fait l'impasse sur le deuxième, sur le troisième, sur le quatrième commandement, qui appelle à respecter Dieu dans notre adoration et à garder du temps pour le chercher. C'est quand même pas mal. Non, c'est enlevé. Jésus ne garde ici, dans les tables de la loi de Moïse, que la morale la plus basique qui soit. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tromper, ce qu'il résume en « ne fait de tort à personne », plus le 5e commandement de la loi de Moïse qui consiste à honorer son père et sa mère, ce qui est quand même le minimum qu'on puisse demander à quelqu'un comme respect de l'autre. Bref, Jésus ne garde ici que le strict minimum de la morale laïque de base, avec pas un mot sur Dieu. Alors c'est plus que surréaliste, vous en conviendrez. Alors que la question de cette page de l'Évangile est de savoir comment entrer dans le royaume de Dieu. La moindre des choses, quand on veut entrer chez quelqu'un, c'est de lui demander poliment d'ouvrir la porte, ou si on entre parce que la porte était ouverte par hasard, c'est de dire bonjour avec un petit coup de chapeau à celui qui est dans la maison, qui est chez lui. Ben non. Penser à Dieu n'est même pas dans la sélection minimale que Jésus propose à cet homme plein de bonne volonté et plein de questions. Oui, vraiment, Jésus ne joue pas ici au bon maître. Il nous avait habitués à de meilleures réponses, à notre avis. Par exemple, un peu plus loin, deux chapitres plus loin, dans ce même évangile selon Marc, quand il nous donne ce résumé génial de la loi de Moïse, disant « Écoute, le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta propre réflexion et de toute ta force, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors là, oui, on comprend mieux l'enseignement de Jésus. Ça, c'est du bon enseignement chrétien. Il y a une vraie place pour l'écoute de Dieu, non par la crainte, comme s'il fallait nous attendre au virage pour nous mesurer, nous juger, nous jeter à la poubelle, non, mais en l'aimant et donc dans une confiance totale en lui, dans l'espérance, dans la confiance. Et nous sommes alors loin d'un code de loi à appliquer et à croire obligatoirement, mais dans l'invitation à aimer Dieu avec notre réflexion personnelle. Et du point de vue moral, c'est quand même autre chose d'être invité à aimer son prochain plutôt que d'avoir pour seul idéal de ne faire de tort à personne, non ? Aimer, c'est avoir un projet positif, créatif et en même temps respectueux de l'autre. Tout est dit là-dedans, finalement. Alors pourquoi donc est-ce que Jésus répond comme ça à ce jeune homme qui lui demande des conseils pour vivre ? La petite morale laïque que Jésus lui propose laisse effectivement l'homme sur sa faim. Jésus récidive alors, mais dans l'excès inverse, avec un commandement absurde tellement il est radical. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Pourquoi est-ce que Jésus donne ce commandement invraisemblable ? Parce que oui, évidemment, c'est impossible de tout donner, comme Jésus le conseille ici. Parce que pour cela, il faudrait ne pas exister, tout simplement. Car manger ne serait-ce qu'une bouchée de pain, c'est déjà posséder quelque chose, un morceau de pain que l'on ne donne pas à l'autre qui peut-être meurt de faim, juste à côté de nous. C'est donc impossible de tout donner, c'est tout simplement impossible. Et d'ailleurs, ça ne peut pas fonder un modèle de société. Les agriculteurs n'auraient plus de charrues ni de semences, le boulanger n'aurait plus de four, bon, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, on sait très bien que Jésus ne s'appliquait pas à lui-même cette idée de tout donner au moment où il dit cela au jeune homme, puisque nous savons par les évangiles qu'il avait une tunique et d'autres affaires dignes de la convoitise des soldats romains qui se les partagent avec gourmandise au pied de la croix. Donc, dans cet épisode, Jésus n'est pas un bon maître. Eh bien, c'est qu'il ne cherche pas à l'être ici. Comme je vous le disais, quand il veut nous donner un véritable idéal de vie, de foi, de relation aux autres, de relation avec nous-mêmes, il sait le faire, et c'est génial. Oui, il y a une excellente philosophie, une excellente éthique basée sur les paroles et la vie du Christ. Alors à quoi est-ce que Jésus joue ici ? C'est qu'il y a des choses qu'il ne suffit pas d'expliquer, parce que ça ne suffit pas de les connaître pour en vivre. Il y a des choses essentielles que l'on doit expérimenter, toucher pour les saisir en fait. C'est vrai même pour quelque chose de tout simple comme le goût d'une bonne fraise. Une thèse de doctorat en 500 pages n'apprendra pas le goût de la fraise à quelqu'un qui n'en aurait jamais croqué une. C'est pourquoi Jésus parle en parabole, finalement, afin de faire expérimenter des impasses dans lesquelles nous sommes et nous permettre ainsi non seulement d'apprendre des choses sur Dieu, sur la vie, mais d'évoluer dans notre cheminement, dans notre espérance, dans notre logique. Et le dialogue que conduit Jésus ici avec ce jeune homme et puis ensuite avec les disciples et donc avec nous-mêmes, lecteurs de l'Évangile, ce dialogue a le même objectif qu'une parabole. Jésus cherche à nous faire expérimenter des impasses. Nous sommes naturellement un peu comme une mouche qui n'arrive pas à sortir d'une bouteille de verre, parce qu'elle rame d'une façon tout à fait illusoire face à la paroi de verre de la bouteille. Et elle ne se rend pas compte que cette barrière est absolument infranchissable pour elle. Alors Jésus cherche ici à nous faire prendre conscience de nos murs de verre, et pour cela, il cherche à nous les faire expérimenter, à nous les faire toucher, pour que nous puissions vraiment trouver la sortie et vivre enfin. Mais pour cela, il est nécessaire de lire par nous-mêmes finalement ce récit, d'avoir le courage de se l'approprier personnellement, intimement, dans la prière et dans l'introspection. Alors bien sûr, cette expérience de l'impasse est troublante. Elle est parfois triste, elle est parfois difficile, elle est parfois angoissante même. Car on lâche alors de fausses sécurités. Ah, qu'il est bon d'être bien au chaud dans ces murs de verre. On lâche alors de fausses sécurités pour partir comme Abraham et sa roulotte en nomade vers un pays que nous ne connaissons pas. C'est ce que vit le jeune homme quand, assombri par la parole de Jésus, il s'éloigna avec tristesse. C'est ce qui arrive quand les disciples vont d'étonnement à un étonnement plus grand encore dans leur dialogue avec Jésus et qu'ils ont le sentiment de ne plus rien comprendre au salut de Dieu apporté en Jésus-Christ. Jésus ne veut pas les attrister, ni le jeune homme, ni les disciples, ni nous-mêmes bien sûr. Mais c'est toujours triste dans un sens de perdre ses illusions, même si c'est pour s'ouvrir à infiniment mieux au monde et à la vie et à Dieu et aux autres et à soi-même. Alors la première impasse que Jésus fait découvrir ici, le premier mur de verre que Jésus fait sentir, découvrir au jeune homme, c'est en refusant de se laisser appeler bon. Il est utile d'expérimenter l'impossibilité d'être totalement bon. Bien sûr, nous le savons, mais il faut arriver à l'imprimer, à le vivre. Ce n'est pas se résigner à la médiocrité de faire le deuil de la parfaite bonté, mais c'est pour vivre en vérité en étant peut-être moins sévère et avec les autres et avec soi-même, plus bienveillant envers la vie vraie, la vie réelle. C'est accepter la vie en ce monde et le tragique d'avoir souvent à choisir non pas la bonne voie, mais seulement la moins mauvaise possible. Et ça, bien sûr, oui, nous le savons, mais nous ne le connaissons vraiment que quand nous l'avons expérimenté avec larmes de repentance et avec la joie de se sentir pardonné, en fait. Et par qui d'autre pourrions-nous l'être vraiment pardonné, si ce n'est par Dieu seul qui nous connaît et qui nous aime vraiment, en fait. Même Jésus a besoin de ce pardon. Il n'est pas une sorte d'esprit flottant à 10 cm du sol et faisant simplement semblant d'être humain. Non, lui aussi doit manger pour vivre. Et donc, il lui aussi est obligé de ne pas donner la bouchée de pain qu'il est en train de mâcher et de digérer. Il est obligé de ne pas la donner à celui qui est tout près et qui meurt de faim, bien sûr. Lui aussi doit s'arrêter de temps en temps de servir les autres pour se reposer et pour prier. Et donc d'arrêter d'aimer son prochain à ce moment-là, ou en tout cas de le servir. Lui aussi doit de temps en temps s'arrêter de prier et de respecter le sabbat pour aller donner un coup de main quand le cœur lui en dit. Donc Jésus est le Christ, mais même lui ne mérite pas d'être appelé bon, et c'est normal. Et en cela aussi, il est notre frère en vivant sur terre parmi nous. Jésus propose alors un premier enseignement, celui de la morale minimale qui consiste au moins à ne pas nuire aux autres et à avoir de la gratitude pour ceux qui nous ont donné la vie. Comme le dit le jeune homme, en faisant attention, on peut quand même y arriver, ça, assez bien. Mais alors, comme le jeune homme, il est bon d'expérimenter qu'une vie réglée par une bonne petite morale raisonnable manque de souffle. Manque de vie véritable, manque de quelque chose d'absolument nécessaire, en fait. Jésus propose une petite morale du strict minimum comme une solution possible à la recherche du vivre bien. Le jeune homme se projette par la pensée dans ce que ce serait que vivre ainsi. Dans une certaine mesure, nous vivons en nous contentant souvent de ce peu d'ambition, en vivant finalement une petite vie bien pépère. Jésus, dans ce passage et dans tout l'Évangile, cherche à nous faire toucher ce mur de verre, finalement, et ressentir que la vie crie en nous, finalement, du manque d'une autre dimension. Jésus propose alors un second enseignement, celui d'un idéal infini, où l'on donnerait sens à sa vie en l'offrant dans un acte de générosité infinie, comme une sorte de feu d'artifice de don de soi, renonçant à être soi-même pour gagner un trésor qui est au ciel. Le problème, c'est que ce type de calcul, se sacrifier pour avoir la vie dans le ciel, est encore de l'égoïsme finalement. C'est encore... On utilise les pauvres éventuellement, mais sans les aimer vraiment, sans les aider à vivre, mais ils sont là, les pauvres, que comme une occasion d'acheter son petit salut à soi, sa petite bonne conscience. Or, l'égoïsme, finalement, le calcul pour soi, c'est source d'amertume, de tristesse et d'obscurcissement de notre horizon. C'est pas ça que Jésus propose. Et donc le jeune homme, il ressent une seconde impasse cruelle. Il est riche, riche d'argent peut-être, qu'importe, Jésus ne fait pas cette distinction. Et il a en plus une intelligence, une foi, un goût de vivre pour avancer. Il sait qu'il est riche d'être lui-même, finalement, tel qu'il est déjà, car Jésus l'aima, nous dit le texte, quand il le vit. Et Jésus lui fit sentir qu'il l'appréciait et il le trouvait aimable. Il est donc riche, il se sait riche. Et comment est-ce que Dieu lui demanderait de sacrifier ce que Dieu lui a donné et qu'il devrait sacrifier cela pour faire plaisir à Dieu qu'il lui a donné? Ça tourne complètement en rond, c'est une folie pure, si vous voulez, c'est pas logique, ça ne tient pas debout. C'est une folie comme celle d'Abraham qui pense un moment que Dieu lui demanderait, c'est terrible, de tuer son fils, le fils que Dieu lui a donné pour réaliser une promesse que Dieu lui donne, mais c'est une impasse totale, si vous voulez. Après l'impasse de la morale minimale, Jésus nous aide à sentir que c'est une folie sombre et triste de vouloir se sacrifier ainsi afin de se sentir digne d'être aimé. Ça ne marche pas comme ça, nous dit Jésus. De toute façon, dit en rigolant le Christ, même en faisant une formidable cure d'amaigrissement, un chameau ne passera pas par le chat d'une aiguille. Donc Dieu ne nous demande pas de sacrifier notre richesse pour passer par la porte de son amour et entrer dans son règne. Il ne nous demande pas de sacrifier ce qu'il veut pour nous, la richesse de nos idées, de notre intelligence, la richesse de notre personnalité, ni de sacrifier nos moyens d'agir en ce monde et d'être heureux. La vie est de toute façon un miracle de Dieu. Il veut que nous ayons la vie, bien sûr, nous le voyons bien, ça ne fait pas l'ombre d'un doute en Christ, car lui aussi, Christ, en nous regardant, il nous aima. Donc Dieu veut que nous ayons la vie et Jésus ajoute cette promesse en fait. Dieu peut absolument nous donner la vie. À Dieu, c'est possible. La question est donc réglée. Bon, il l'avait déjà dit avant dans le passage que j'ai lu d'entrée de jeu en disant que le royaume est pour les bébés, alors qu'ils ne savent rien de Dieu, qu'ils n'ont encore rien accompli et qu'ils n'ont rien à offrir à personne. Mais la question, c'est d'aller au-delà de ce simple savoir pour la vivre. Et suivre alors le Christ dans son cheminement, en fait. Alors oui, nous pouvons commencer par une morale minimum. S'abstenir autant que nous pouvons de faire du tort à notre prochain. Éviter de tuer, de mentir, de tromper. Au moins cela. Et savoir que tout le reste est resté libre et laissé libre par Dieu. Le reste est à inventer. Toute la théologie, des projets de vie, des éthiques, une éthique, des belles choses. Et pour cela, Jésus nous propose d'honorer père et mère, c'est-à-dire de s'ouvrir à la gratitude et à la louange. Mais aussi, puisque nous découvrons que Dieu est père et mère dans ce texte, honorer Dieu comme père et mère aujourd'hui encore, car il peut aujourd'hui nous enfanter. Et ce qui est déjà né de lui, il cherche encore à l'allaiter aujourd'hui, à l'éduquer, le laisser grandir, s'épanouir. Et donc ce Dieu qui offre des miracles de franchissement aux lourds chameaux que nous sommes, nous pouvons s'ouvrir à lui, s'ouvrir à cette ouverture qu'il place devant nous, s'ouvrir à ce souffle, s'ouvrir à ce manque que ressent le jeune homme, à cet appétit de faire le bien qu'avait le Christ. Dans sa vie quotidienne, le Christ ne donnait pas tout jusqu'à la dernière bouchée de pain. Mais ce qu'il donnait, il le donnait par amour, non par calcul, pour se faire une petite vie éternelle. Alors que le jeune homme cherchait à acheter le paradis, voilà qu'il découvre que la porte est grande ouverte finalement, et qu'il est donc riche et libre d'en faire ce qu'il veut, de cette richesse qu'il a, de cette richesse qu'il est. Il est libéré du seul moralisme de base comme horizon. Il est libéré de la folie des héroïsmes, libéré de la menace d'un Dieu terrible. Alors que faire? Même si nous sommes toujours en fait un enfant dans la main de Dieu, c'est alors que nous ne sommes plus seulement des bébés finalement, mais que nous assumons en responsabilité ce vertige face à la liberté et face à cette richesse que nous sommes. Les richesses spirituelles ont une qualité extraordinaire. Celui qui en donne ne s'en dépouille pas lui-même. Et pourtant, le pauvre repart plus riche. Il repart plus joyeux de notre joie. Il repart avec un peu plus d'espérance, sans que nous en ayons moins. Il repart avec un peu de notre espérance, finalement. Il repart peut-être avec l'envie d'aimer un peu plus après avoir été un peu aimé par nous. Notre richesse, ainsi, devient un trésor spirituel qui fructifie au fur et à mesure de nos dons. Qu'est donc devenu le jeune homme? Qu'a-t-il fait de cette liberté et de cette richesse? Qu'a-t-il fait de sa vie? L'Évangile ne nous dit pas finalement la suite de l'histoire du jeune homme riche. La suite n'est pas encore écrite parce qu'elle n'est pas encore vécue. Elle est ce que nous ferons nous-mêmes avec notre cœur là où nous le plaçons, ou non, en fait. Amen.